Eugénie Foa, Tirsa, chronique hébraïque. C'était l'heure de la prière à Jérusalem. Parmi les habitués du temple de Salomon, un étranger se faisait remarquer. Jeune et beau, portant le costume d'une tribu voisine, était-il venu, comme la foule empressée, seulement par amour ou par crainte du Dieu fort et jaloux d'Israël? Non. Ses voisins s'aperçurent avec étonnement que sa voix ne se mêlait pas à leur voix et que ses regards restaient constamment fixés sur une galerie élevée. Il semblait ne point prendre part aux cérémonies religieuses qui se passaient autour de lui. La galerie était fermée par un treillage. À chaque angle, des rosaces d'or et derrière le treillage, des voiles de femmes, tous blancs, unis, uniformes, formant un bandeau sur le front, et ne laissant paraître de la figure qu'un œil unique, puis retombant en longs plis sur le reste du corps. Un de ses beaux yeux, échappé au voile, œil jeune et brillant, d'une beauté et d'une forme parfaite, a laissé tomber un regard dans l'enceinte consacrée aux hommes. Arrêté un instant sur le jeune étranger, le doux regard s'est tout de suite relevé vers le ciel, comme vers un refuge, contre un mal sans espoir. À ce regard, le jeune étranger frissonna. Il s'appuya contre une colonne, vaincu par son émotion. Un homme était près de lui, un homme au visage dur, au front sévère, et dont les yeux flamboyants semblaient faits pour servir d'interprète à toutes les passions, mais jamais à la pitié. Ses épais sourcils se rapprochèrent, mais il resta debout à sa place, s'inclinant comme ses frères au moment où les tables de la loi s'ouvrent à ses regards. Il continua sa prière, mais la prunelle toujours fixée sur le jeune étranger. Les tables de la loi reportées dans l'arche sainte, l'étranger sortit du temple et prit le chemin de la vallée de Josaphat en longeant le Cédron. Le soleil était brûlant. L'inconnu s'arrêta sous un ombrage las et triste. Ses larmes coulèrent. Une vieille femme vint l'interrompre dans ses pleurs. Alors le soleil descendait derrière les cèdres du mont Liban. La vallée était déserte, silencieuse. La vieille avait un air mystérieux. Pourtant elle ne parla pas, elle ne fit aucun signe. Mais à peine le regard du jeune homme se vit-il arrêter sur elle, aussitôt la vieille femme disparut parmi les arbres de la vallée. À sa place était un bouquet que peut-être elle avait oublié, que peut-être aussi elle avait perdu à dessein. Le jeune hébreu releva le bouquet. Il était composé de fleurs brunes appelées roses de Judée. Il les compta, il en trouva 9. 9, se dit-il. Et soudain, il se ressouvint du regard qui avait percé la galerie du temple. Il comprit la vieille, son silence, sa fuite, le nombre allégorique des fleurs du bouquet. Ivre de joie, il appela la nuit.
Il fait nuit. Adieu, Tirsa, dit le docteur Zimam. Perché sur le visage angélique d'une jeune femme, il déposa un baiser sur son front blanc et candide, puis deux, et fit un pas vers la porte de la maison.
Vous ne me dites pas adieu, Tirsa, ajouta-t-il en s'arrêtant. « Me dites pas ce que vous ferez en mon absence. »
La jeune juive rougit.
La question eut l'air de l'embarrasser. Pourtant elle répondit, timide et comme surmontant une émotion pénible, « Je vous attendrai, Seigneur. Serez-vous longtemps absent? Mon frère Tabor est malade et peut-être passerai-je la nuit chez lui. Vous, Tirsa, couchez-vous de bonne heure, ayez bien soin de notre petit Emmanuel. »
Puis la figure du docteur, naturellement dure, s'adoucit en regardant sa jeune épouse. Il jeta un regard complaisant sur un berceau dont les rideaux entr'ouverts laissaient voir un bel enfant endormi. Le docteur s'éloigna lentement, souriant à Tirsa et lui faisant adieu de la main. Il ne la quittait qu'à regret. «
Kedma, dit-il à une vieille femme qui filait dans la pièce d'entrée, « je sors. Que ma porte soit fermée à tout le monde, je le veux ainsi. Si quelque ami venait me demander, je suis chez mon frère Tabor. Si un étranger réclamait l'hospitalité, conduisez-le chez mon parent Esaü. Il le recevra pour moi. Une autre fois, je ferai de même pour lui. Kedma, ne recevez personne pendant mon absence. Personne. Ainsi soit-il, Seigneur, répondit la vieille avec respect. Les admirables docteurs sortit. À peine eut-il dépassé le seuil, qu'une inquiétude vague, une idée pénible et fidèle, le fit revenir sur ses pas. Déjà il tenait le marteau pour frapper, mais la raison vint à son aide, et passant la main sur son front comme pour effacer le nuage qu'il avait obscurci un instant, il reprit le chemin de logis de son frère. Il trouva son frère levé, et il le félicitait sur sa prompte guérison, lorsque Zébul, un des voisins, entra. « Bonsoir, Tabor. Oh, je suis bien aise de vous voir établi. Eh, Zimram, bonsoir. Je vous croyais chez vous. » Zimram allait répondre lorsque Ephiéphed, un autre de ses voisins, parut à la porte. « Déjà levé, dit le dernier venu. Tant mieux, Tabor, je m'en réjouis. Ah, vous voilà, Zimram, c'est singulier, je vous croyais chez vous. Et pourquoi, dit le docteur étonné. Ben, en passant votre porte, j'ai cru voir entrer un homme de votre taille, et je pensais... un homme entré chez moi. Chez moi, interrompit vivement Zimram. Un homme? Ne vous alarmez pas, Zimram, reprit Zébul. Moi aussi, je l'ai vu, et son air n'avait rien d'une mauvaise intention. C'est, je crois, un étranger, peut-être un voyageur. Ses habits étaient couverts de poussière. Mais étranger ou non, cet homme, Zébul, on ne l'a pas reçu, cet homme. J'ai défendu. Vous n'avez pu le voir entrer chez moi, cet homme, dit Zimram dans la plus vive agitation. L'étranger du temple de Salomon lui revenait à la mémoire. Eliphelet répondit tranquillement. Ben, il est entré chez vous, Zimram, cet homme. Et si vite entré que j'ai vu que le bout de ses sandales rouges. Rouges comme les vôtres, Zimram. Voilà pourquoi je pensais que c'était vous. Mais, comme dit Zébul, c'est peut-être un voyageur, cet homme, un pauvre, ou un de vos parents, ou un des parents de votre femme. Zimram n'écoutait plus. Il s'était élancé hors de la maison. « De grâce, suivez-le, » dit Tabor aux deux voisins. Sa marche était précipitée et ses voisins avaient peine à le suivre. Il arrive à sa porte, il lève la main pour frapper, et sa main retomba sans force. Il ne pouvait respirer. On aurait dit que toutes les passions s'étaient ramassées, fixées sur son cœur et l'étouffaient. Zébul leva le marteau et frappa. Une minute se passa. Puis deux, qui lui parurent un siècle, on ne venait pas ouvrir. Zimram mit la main à sa ceinture, il en tira un poignard, puis il frappa de rechef, et à coups redoublés, et si fort que les murs en tremblèrent. Enfin on ouvrit. « Pardon, Seigneur, » dit Kedira tremblante, et si émue qu'à peine elle se faisait entendre, « pardon le sommeil. » « Où est Tirza ?» Et la voix de tonnerre de l'époux acheva de paralyser la vieille femme. « Où est Tirza ? » répéta-t-il. Et sans attendre de réponse, il était dans la seconde chambre. Le bruit qu'il fit en y entrant, les éclats de sa voix terrible, réveillèrent l'enfant. L'enfant ouvrit les yeux. Il tendit ses jolies petites mains vers son père. Sa bouche charmante sourit à ce front courroucé, et sa voix enfantine murmura « Maman !» Elle n'était pas là. Zimra jeta un regard sur son fils. Eliphelet prit le poignard des mains du père et le cacha dans les plis de sa ceinture. « Maintenant, vieille, où est ma femme ?»« Je suis calme. » Et le sang était près de jaillir de ses lèvres qu'il mordait violemment. Involontairement, les yeux de Kedma se tournèrent vers le jardin. La porte était ouverte, Zimram s'y précipita. La nuit était obscure, et ses sandales ne faisaient aucun bruit sur le sable. À l'extrémité d'une longue allée d'arbres était un mur peu élevé. À l'aide d'une vigne rampante, Un homme montait sur ce mur, et une femme était au pied du cep de vigne. « Adieu, Tirza, adieu, ma bien-aimée !» dit une voix de jeune homme. Une voix douloureuse, une voix d'amant, un soupir plaintif répondit à cet adieu, et l'homme disparut. Le mari était là, devant elle, avec deux témoins. Malgré la nuit, elle aperçut deux yeux noirs qui lui lançaient un regard terrible. Elle entendit une voix outragée lui crier « Infâme Tirza !» Puis elle se sentit saisie par une main de fer. Sans cette main, elle tombait à la renverse. La foule s'en va dans la rue. Où va la foule? Capricieuse et échevelée, insouciante, toute curieuse, elle se rend au temple de Salomon. Pourtant ce n'était ni le septième jour de la semaine consacrée à Dieu, ni aucun jour de fête solennelle. Tous les regards se dirigeaient vers la principale entrée du temple. À cette porte se tenait le grand prêtre, revêtu de ses habits pontificaux, le visage tourné vers l'Orient. À sa droite et à sa gauche étaient deux autres serviteurs de Dieu. Ensuite, les deux voisins de Zimram, Zébul et Philphéved. Devant les cinq vieillards, deux nouveaux personnages se placèrent aussitôt. Alors tous les regards se portèrent sur les nouveaux venus. Le premier de ces deux personnages est un homme de 40 ans, d'une haute stature. Une douleur concentrée et profonde altère son visage. Ses yeux noirs brillent d'un feu sombre. Un sourire amer contracte sa bouche. Et sa main, agitée d'un tremblement convulsif, tient et serre le manche de son poignard dans sa ceinture. Près de lui se tient debout une femme voilée, pliée en deux, tremblante et si pâle, qu'à travers son voile elle est pâle. Toutes les avenues du temple sont encombrées. C'est une mer agitée, c'est un sable mouvant, sur lequel on distingue que des voiles blancs, des turbans variés et de mille couleurs. Mais dans cette enceinte vivante, cherchez à reconnaître les détails de cet ensemble. Regardez parmi ces voiles, ces turbans. Ce sont des yeux que l'impatience anime, des fronts que la colère a plissés, des bouches qui s'ouvrent pour appeler la vengeance et qui restent blêmes en de longs cris de mort. Le grand prêtre est debout. Il va parler, on écoute. Zimram, dit une voix forte et assurée, avez-vous bien réfléchi? La résolution de rompre avec votre femme est-elle bien arrêtée? Oui, répondit l'époux froidement. Un soupir se fit entendre près de lui. Zimram tressaillit. Quels sont vos motifs? Ajoute le grand prêtre. Ils sont contenus dans l'acte de divorce. Alors l'acte de divorce fut remis au grand prêtre. Et le grand prêtre lut à haute voix qu'un homme avait pénétré furtivement et de nuit dans la maison de Zimram, que cet homme y était demeuré 2 heures, et que la femme de Zimram l'avait aidé dans sa fuite. Deux témoins affirmaient le fait, et sans autre preuve, Zimram demandait le divorce, abandonnant sa femme à la justice des lois. Pendant la lecture, le plus grand silence avait régné. Seulement un bruit léger, comme celui d'un soupir qu'on étouffe, s'était fait entendre par intervalle près de l'époux outragé. Le grand prêtre lut la signature des témoins et se tourna ensuite vers le scribe. « Messire, est-ce vous qui avez écrit cette déclaration ?»« Oui, Seigneur. L'avez-vous écrite sur du parchemin fourni par le futur divorcé ?»« Oui, Seigneur. » Vous êtes-vous servi pour cela de sa plume et de son encre? Oui, Seigneur. Le grand prêtre se retourna vers les témoins qui confirmèrent les paroles d'Assir. Il s'adressa ensuite à la femme voilée. Femme de Zimram, levez votre voile. Elle obéit. Son voile tombe lentement et à mesure découvre un front rouge de pudeur, des yeux baissés pleins de larmes.
sa taille frêle et flexible et doucement inclinée vers la terre, dans une attitude douloureuse. Elle a 16 ans, la pauvre femme. Femme de Zimram, ajouta le grand prêtre, acceptez-vous l'acte de divorce? Ces mots la font tressaillir. Effrayée et soumise, elle dit oui, mais si bas, si faiblement, qu'on aperçut le mot plutôt qu'on ne l'entendit. Joignez vos mains, lui dit le grand prêtre. Ses deux mains blanches se joignirent l'une à l'autre. L'anneau d'or brillait seul au doigt annulaire. Rendez à votre époux la bague d'alliance. Grâce, grâce, s'écria-t-elle d'une voix touchante. Elle n'obéit pas. Zimram s'avança. Sa main brute et nerveuse saisit la main de Tirsa et la dépouilla brutalement de cette bague. Tirsa ne fit aucun effort pour l'en empêcher. Puis le grand prêtre ploya l'acte de divorce en quatre et le remit au mari. Gardez-le, lui dit-il, jusqu'à ce que je vous dise de le faire passer dans les mains de la femme que vous répudiez. Et vous, Zébul, vous, Eliphelène, vous témoins, soyez attentifs. Zimram, maintenant, dites à la femme qui bientôt cessera d'être votre Tirsa, je ne veux plus de toi. Tirsa, dit Zimram, sa voix faiblit, il ne put achever. Tirsa était à ses pieds, suppliante, levant sur lui ses grands yeux noirs, dont l'expression était ineffable. « Grâce, Seigneur, disait-elle avec effroi, grâce, je suis si jeune, ayez pitié de moi. » Alors une rumeur sourde s'éleva dans la foule. On regarde, c'était un jeune homme qui se frayait d'un passage dans la foule, tête baissée, cédant des pieds et des mains. Il arrive enfin près des époux, haletant, épuisé. Neftali, s'écria involontairement Nirsa. Neftali, répéta Zimram. Il avait reconnu l'étranger du temple et brandissait son poignard. Frappe, Zimram, s'écria le jeune homme en découvrant sa poitrine. Frappe et sauve ta femme. Nirsa est innocente. Peuple d'Israël, écoutez-moi. Tirsa avait perdu ses parents. Mon père l'éleva, et je l'aimais d'amour, quoique mon père m'eût promis à la fille de son frère. Il m'ordonna donc de partir. J'obéis. Et à mon retour, Tirsa n'était plus chez mon père. Mariée, elle avait suivi son époux à Jérusalem. Et voulant revoir mon ami d'enfance, la voir et la quitter après pour toujours, j'arrivai ici. On lui dit que dans les angoisses de la mort, j'attendais la permission de la voir. Y ferez-vous un crime d'avoir eu pitié de moi, d'avoir caché cette entrevue à son époux, lui qu'elle savait jaloux et soupçonneux? Hélas, c'était ma sœur, je suis son frère. Un frère ne peut-il donc aimer sa sœur? Ne peut-il pas lui dire « ma sœur, adieu » Je lui disais « ma sœur, adieu ». Eh bien, je lui disais « demain je pars, encore un moment, un regard, une parole de toi. Zimram, ton ennemi s'offre à tes coups, mais qu'une victime te suffise, grâce, pour cet ange innocent et pur. Si tu aimais seul, je n'hésiterais pas à te tuer, » répond Zimram, remettant froidement son poignard dans sa ceinture. Mais la mort ne me rendra-t-il son amour? Tu as troublé son repos, tandis qu'elle a détruit mon bonheur. Elle n'aime que toi, Zimram. Elle n'aime que moi. Le misérable, regarde-la. Vois cette rougeur dont ta présence a coloré ses traits. Vois ces sanglots se sont arrêtés pour t'écouter. Dis-moi quel nom errait sur ses lèvres lorsque tu as paru. Est-ce le tien ou le mien? Mais qu'elle jure sur notre sainte loi que c'est moi seul qu'elle aime. Qu'elle le jure, je la croirai. Tirsa était silencieuse. Sa main cherchait son voile. Le jeune hébreu étouffa un cri de bonheur. Mais rien n'avait échappé à la jalouse sagacité de l'époux. Achevez la cérémonie, dit-il d'une voix sombre au grand prêtre. Regarde donc ce peuple, s'écrie vivement Nephtali. L'arrêt de mort de la femme est écrit sur tous ses fronts. Et c'est toi qui l'as tracé sur celui de Tirza. Tous les assistants étaient émus. Les deux témoins, malgré la solennité de la cérémonie, n'avaient pu retenir leurs larmes. Tirza les remerciait par un regard. Ah, que de reconnaissance il y avait dans ce regard! Au dernier degré du malheur, la pitié fait tant de bien. Finissons, dit Zimran, avec une émotion qui perçait jusque dans la dureté de sa voix. Tirza fit un pénible effort et ploya les genoux devant son mari. Oh, pitié, dit-elle, et ses larmes coulaient, coupaient sa voix. Vous êtes mon seigneur, mon maître, mon mari. À moi, votre esclave et votre épouse, faites-moi grâce. Ma faute ne mérite pas un tel châtiment. Zimran, mon époux respecté, le sort qui m'attend est affreux. Mon père était votre ami. Je suis la mère de votre Emmanuel, c'est mon fils. Toutes ces chères créatures si frêles et qui a tant besoin de sa mère, Zimran, mon époux, ayez pitié de lui. Ses pleurs la suffoquaient. Serrant convulsivement la tunique de son époux, elle la portait à ses lèvres, elle en couvrait son visage. « Homme sans pitié !» s'écria impétueusement Nephtali à la vue du désespoir de la femme qu'il adore. « T'en avais donc de faire qu'elle reste insensible à ses larmes. »« Je te rends grâce, Nephtali, » répondit Zimran avec une amère ironie. « J'hésitais, tu m'as décidé. » Puis sans jeter un seul regard sur sa victime, restée froide et glacée dans ses mains, il ajouta haut et vite « Tirza, je ne veux plus de toi !» et y mettant l'acte de divorce dans ses deux petites mains, que la fièvre avait roidi, il repoussa la pauvre femme, dont on vit le frêle corps se balancer un instant, incapable de se soutenir sur lui-même. Et Zimran s'enfuit épouvanté. Le grand prêtre prit leur acte de mariage, il le déchira en quatre, jeta les morceaux au vent, et accompagné des témoins, il rentra dans le temple. Tirza était restée à la place où son mari l'avait poussée. Elle considérait d'un œil fixe l'acte de divorce, ce parchemin ployé en quatre qui pesait à sa main comme un poids horrible. Elle regardait sans les voir. Les femmes qui peu à peu s'éloignaient d'elle. Elle entendait, dans une morne stupeur, le murmure sinistre qui s'élevait dans la foule. Mais bientôt, reprenant le sentiment de son malheur, elle lança loin d'elle ce fatal écri, cherchant dans tout ce peuple qui l'entoure un défenseur, un ami, pas un, car l'infortunée ne voyait pas, non loin d'elle, un jeune étranger, qui lui aussi, morne et pâle, considérait l'orage qui s'élevait et repartait parfois un regard brûlant d'amour vers elle. Pauvre abandonnée, bientôt elle eut peur, et chancelante elle descendit les degrés de marbre du temple de Salomon. « Elle est coupable, disait-on dans la foule. Le crime n'est pas prouvé. Un homme est rentré chez elle la nuit. Il est resté 2 heures. Zébul l'a vu, qui s'échappait. Et puis Félada était témoin de sa fuite. Elle l'aidait à fuir. Elle a déshonoré son époux, répliquait un vieux docteur de la loi, mari d'une jeune femme. Elle a mérité la mort, criait-on de toutes parts. La loi la condamne. Que son exemple soit terrible. On est bien jeune. Eh bien belle, disaient d'aucuns. Sans doute de très jeunes gens. « Point de grâce !» s'écriaient les femmes, et mille voix répétaient « Point de grâce ! Mort à celle qui trahit son époux, qui verse la honte sur la tête de ses enfants !» Ces vociférations, ces figures effrayantes, cette foule d'hommes qui s'excitent les uns les autres, qui s'avancent furieux vers une frêle femme, la remplissent de terreur. Épouvantée, égarée, elle parcourt des yeux l'enceinte vivante qui la presse, elle veut fuir. Fuir, mais par où? De quel côté? Toutes les avenues sont envahies, encombrées par un peuple délirant, Seigneur. Dieu, ici, là, là-bas aussi, partout la mort. Un seul regard est arrêté sur elle avec amour, avec angoisse. Un seul cœur a compris, a partagé sa douleur. Un seul homme est immobile près d'elle. C'est le seul qu'elle ne voit pas. Le tumulte augmente, le supplice approche. Il s'est dressé de toute sa hauteur. Il étend sa main de fer sur la victime qui l'attend. Enfin, une pierre est lancée. Elle siffle, fend l'air, et vient frapper le sol non loin de Tirsa. « Dieu d'Israël, reçois mon âme !» s'écrie la jeune et malheureuse divorcée. Et enveloppant dans son voile sa figure glacée, elle tomba presque morte. Pourtant, ses sens ne l'abandonnèrent pas entièrement, car il lui sembla que quelqu'un se glissait près d'elle, que deux bras entouraient sa taille, soutenaient son corps, et au même instant elle éprouva une commotion violente à la tête. Le temple tournoya sur sa base, la terre s'enfuit sous elle, elle ne sentit plus rien. Non loin des murs de Jérusalem, on voit encore à la porte du cimetière des Hébreux deux pierres grises et rongées par le temps. La mousse les recouvre. En l'écartant, on n'aperçoit ni nom ni date. Mais l'histoire de ces deux victimes s'est conservée par tradition. La mère la raconte encore à sa fille au moment de la fiancée. Et l'époux, qu'une absence oblige à quitter sa jeune femme, lui redit d'un air d'indifférence la fin malheureuse de Tirsa et de l'étranger Nephtali. Pâle sa figure glacée, elle tomba presque morte. Pourtant, ses sens ne l'abandonnèrent pas entièrement, car il lui sembla que quelqu'un se glissait près d'elle, que deux bras entouraient sa taille, soutenaient son corps, et au même instant elle éprouva une commotion violente à la tête. Le temple tournoya sur sa base, la terre s'enfuit sous elle, elle ne sentit plus rien. Non loin des murs de Jérusalem, on voit encore à la porte du cimetière des Hébreux deux pierres grises et rongées par le temps. La mousse les recouvre. En l'écartant, on n'aperçoit ni nom ni date, mais l'histoire de ces deux victimes s'est conservée par tradition. La mère la raconte encore à sa fille au moment de la fiancée, et l'époux, qu'une absence oblige à quitter sa jeune femme, lui redit d'un air d'indifférence la fin malheureuse de Tirsa et de l'étranger Nephtali.